Chapitre 5e. Procès du métropolite Benjamin et de l'archevêque Sieplak. En même temps que le gouvernement soviétique détruisait la maison de Dieu, il en exterminait systématiquement les desservants, par l'assassinat, par le bannissement, et par tout un ensemble de mesures qui, en privant le clergé de tous ses droits politiques et civils, lui enlevaient ses moyens d'existence et le vouaient à une mort lente mais certaine. Les décrets qui ont retiré à l'Église toute aide de l'État, la confiscation des terres appartenant aux églises et aux couvents, n'ont plus laissé au clergé d'autres ressources que celles qui pouvaient lui venir des fidèles. Mais ceux-ci se trouvent eux-mêmes réduits à la misère et incapables d'aider qui que ce soit. En effet, ne vivent bien en Russie que les innombrables agents des soviets. Les personnes enregistrées comme travailleurs peuvent encore assurer à la rigueur à eux-mêmes et à leur famille le strict minimum de moyens d'existence, mais le reste de la population est voué au plus complet dénuement. Encore existe-t-il des sous-catégories dans la catégorie des non-travailleurs. Les desservants et anciens desservants de l'Église sont rangés dans la catégorie la plus sévèrement réglementée. Pour eux, en fait, toutes les formes du travail et par conséquent tous les moyens d'existence sont inaccessibles. Leurs enfants ne sont pas reçus dans les écoles, et particulièrement dans les écoles supérieures. S'ils arrivent tout de même à y entrer, ils en sont vite chassés à la suite des vérifications périodiquement effectuées sur l'état social des élèves. Ils sont toujours inscrits en tête pour toutes les corvées et prestations, si nombreuses et si variées sous le régime soviétique, et n'en sont jamais exempts. On voit par là quelle est la tragique situation faite aux desservants de l'Église, et on ne s'étonne pas qu'on ait enregistré parmi eux un nombre élevé de suicides. Non content de créer pour les desservants de l'Église un régime d'exception qui devait assurer l'extermination lente de cette catégorie de citoyens, le gouvernement des soviets a mené contre eux une attaque plus directe et plus brutale. Innombrables sont les cas d'assassinats, de condamnations à mort, de bannissement des membres du clergé et des hauts dignitaires de l'Église. Comme pour la destruction et la profanation des églises, on distingue deux périodes dans les répressions dirigées contre les desservants de l'Église. L'une débute à la prise du pouvoir par les bolcheviks et s'étend jusqu'à la grande famine de 1921-1922 et les décrets sur la confiscation des objets sacrés appartenant à l'Église. L'autre, qui commence en 1921-1922, dure jusqu'à nos jours. Au cours de la première période, l'extermination se pratique sans même un simulacre de jugement. Ce sont d'odieux assassinats commis soit par les agents de différents groupements qui détenaient à ce moment le pouvoir réel, par exemple les matelots de Kronstadt, soit par vengeance, notamment après l'abandon des territoires par les armées blanches, soit par suite des excitations publiques à la haine contre le clergé. Au cours de la deuxième période, les répressions deviennent plus nombreuses, plus systématiques, plus raffinées aussi. Elles sont pratiquées ouvertement sous forme de procès intentés aux hauts dignitaires de l'Église, le caractère de procès de démonstration, et ils s'en servent comme d'une arme puissante de propagande. Ils visent à la tête même de l'Église et essaient de provoquer et de développer le schisme afin de jeter le trouble dans l'âme des fidèles et de diviser pour mieux régner. Voici quelques exemples qui donneront une idée de ce qui se passa dans la première période. Le 25 janvier 1918, périssait assassiné, un des prélats les plus estimés de l'Église orthodoxe, le métropolite de Kiev, Vladimir, celui-là même qui avait officié à l'ouverture du concile pan-russe. Le métropolite, très âgé déjà, n'avait jamais en aucune occasion manifesté contre le pouvoir soviétique. Il fut assassiné 2 jours après l'occupation de la Lavra de Petchersk par les bolcheviks. 3 énergumènes se présentèrent sous prétexte d'une perquisition à effectuer et enlevèrent le vieillard, dont le corps fut trouvé à 150 mètres de l'entrée du couvent. On l'avait dépouillé de ses bottines, de ses bas, de sa montre en or, de la sainte image qu'il portait sur la poitrine et de sa croix. L'examen du corps a démontré que le métropolite avait subi des tortures horribles avant d'être assassiné. Il était bien inutile de porter plainte ou d'essayer de rechercher les responsables. Kiev et la Lavra étaient à cette époque l'arène des premières agressions du bolchevisme contre l'Église et les assassins avaient certainement agi en plein accord avec les autorités. Peu de temps après, à l'autre bout du pays, à Petrograd, où le pouvoir était à ce moment exercé par la commune du Nord, le supérieur de la cathédrale de Kazan, l'archiprêtre Ornatsky, un des orateurs les plus fameux de l'Église orthodoxe, réputé dans le pays entier pour sa haute intelligence et son érudition, fut également assassiné. Des hommes armés vinrent pour l'emmener au bureau du commissaire militaire. On ne le revit plus. Ses trois fils, partis à la recherche de leur père, disparurent à leur tour. 15 jours après, on apprit qu'ils avaient été fusillés à Kronstadt par les matelots, sur un ordre provenant on ne savait plus de qui. Dans les mêmes conditions, périt le supérieur de la cathédrale de l'Amirauté, Stavrovski, un vieillard de 83 ans. On le mena dans les locaux du commissaire militaire, autrefois appartement personnel des ministres de la guerre, où il fut détenu pendant plusieurs semaines, en même temps que quelques hauts fonctionnaires de l'ancien régime. Un soir, il fut appelé à la chancellerie et personne ne le revit plus. Transporté à Kronstadt, il périt, comme y périrent beaucoup d'autres victimes, des mains de la beauté et de la gloire de la Révolution, comme le pouvoir révolutionnaire appelait la masse des matelots sans pitié, que toutes ces exécutions sans jugement ont couvert d'une honte ineffaçable. L'archevêque de Perm, Andronic, subit des tortures particulièrement horribles. On lui coupa les joues, le nez et les oreilles, et on lui creva les yeux. On le promena dans cet état dans les rues de Perm, et on le jeta ensuite dans la rivière. Le supérieur du couvent Spasov, l'archimandrite Rodion, un vieillard de 75 ans, fut arrêté par le fameux matelot Dybenko, amené dans un champ, supplicié et assassiné. Ces exemples suffisent. Partout, dans toutes les parties du pays, le calvaire des desservants de l'Église était le même, mais le pouvoir central n'agissait pas encore ouvertement. Certes, en fait, c'est toujours de lui, de sa propagande, que venaient les excitations au meurtre, et c'est souvent par ses agents qu'ils furent commis. Néanmoins, sa participation était toujours déguisée. À partir des années 1921-22, le gouvernement trouve enfin le prétexte qu'il lui fallait pour agir directement et en pleine lumière. Sous couleur d'appel à la désobéissance, dont le clergé se serait rendu coupable à l'occasion de la confiscation des objets sacrés dans les églises, il met en branle sa police politique et ses tribunaux avec mission d'envoyer au bagne des centaines, des milliers de desservants. Il va sans dire que ces accusations étaient mensongères. Si le clergé ne pouvait évidemment pas approuver la confiscation des objets du culte, encore est-il qu'il n'a jamais appelé les fidèles à la résistance. Les émeutes, qui se sont quelquefois produites autour des églises, étaient spontanées et n'ont jamais été provoquées ou organisées par le clergé. La presse soviétique se mit de la partie. Les journaux officiels publièrent des listes de prêtres déclarés ennemis du peuple et désignés à la vindicte publique. Aux odieuses dénonciations de cette presse, les autorités s'empressaient de répondre par l'arrestation immédiate des prêtres désignés. Des milliers de membres du clergé furent ainsi envoyés par le GPU sans le moindre simulacre de jugement régulier dans les geôles soviétiques, au bagne, vers le monastère de Solovki sur la mer Blanche, transformé en un lieu de déportation au terrible renom. Les évêques, mal vus par les autorités soviétiques, était appelé au GPU ou dans ses sections locales, et sans qu'on admît la moindre explication de leur part, on leur déclarait qu'ils étaient accusés de résistance aux ordres du gouvernement, après quoi ils étaient jetés dans les prisons ou dirigés sur le bagne. Beaucoup y ont péri, d'autres y restent encore dans des conditions matérielles et morales telles qu'on se demande comment des êtres humains peuvent endurer de pareilles souffrances sans succomber. Nous pourrions citer les noms de ces évêques martyrs, vénérés par les orthodoxes pour leur vie entièrement consacrée à la foi, mais ces noms ne diraient rien aux étrangers. En même temps se multipliaient des procès, qui n'étaient que de dérisoires simulacres de justice, l'issue en étant réglée d'avance par ordre des autorités. Voici les renseignements que donnent les journaux pour les mois de mai-août 1922. Les Izvestia du 10 mai 1922 ont publié le jugement du tribunal de Moscou dans le procès des 54, accusés d'appel à la résistance à l'occasion de la confiscation des objets appartenant à l'Église. 12 accusés, dont 9 prêtres, ont été condamnés à la peine de mort. Le 11 mai, à Rostov-sur-le-Don, est condamné à mort le prêtre Kravtsov. Le 15 mai, à Novgorod, le tribunal juge pour le même crime 22 personnes. 3, dont 2 prêtres, sont condamnés à mort. Le 16 mai, à Novotcherkassk, peine de mort pour 5 personnes, dont 2 prêtres et un diacre. En juillet, à Petrograd, 92 personnes sont jugées dans les mêmes conditions et 10 sont condamnées à mort. À Irkoutsk, l'archevêque Anatoli est l'ancien de l'église Stefanovski condamné à mort. En août, dans un grand procès intenté à des prêtres et à des moines, à Krolevets, du gouvernement de Tchernigov, le supérieur du couvent Matvev et le prêtre Retchenko condamnés à mort. À Rostov-sur-le-Don, le tribunal a jugé 32 personnes, dont l'archevêque Arseny, qui fut condamné à mort, peine commuée ensuite en 10 ans de prison. Cette liste, tout à fait incomplète, ne concerne que 4 mois de l'année 1922, et nous omettons les innombrables condamnations au bannissement et à la prison, condamnations équivalant en fait le plus souvent à la peine de mort. Ces procès et ces condamnations se sont continués jusqu'à nos jours et tout récemment encore on pouvait lire dans les journaux l'information suivante. Moscou, 28 octobre 1929. Le procès de démonstration intenté à Kimri au clergé et aux fidèles pour résistance à la confiscation de l'Église s'est terminé par la condamnation de 5 accusés, dont le prêtre Kolyarov, à la peine de mort. À Ivanovo, Vosnensk, 4 personnes, dont un prêtre, sont condamnées à mort. Quel est le nombre total des victimes assassinées, livrées au bourreau ou envoyées au bagne? Jamais aucune statistique n'a été publiée qui puisse en donner une idée même approximative. Voici pourtant un chiffre. M. Van de Linde, dans la lettre publiée par le Times en mars 1922, indique, d'après les informations des journaux, que le nombre des desservants de l'Église exécutés au cours des 3 premières années de la dictature bolchévique est de 28 évêques et 1215 prêtres. Mais les répressions sanglantes ne se sont pas arrêtées en 1922. À l'heure actuelle, il est impossible d'indiquer, même approximativement, quel niveau elles atteignent. Il est, en tout cas, très élevé. La tempête qui sévit contre l'Église orthodoxe sévit plus violemment que jamais. Et c'est par des milliers qu'il faut compter le nombre des innocents qui ont péri, parce qu'au milieu de conditions de vie effroyables, entourés de la haine, exposés à des humiliations et à des dangers mortels, ils continuaient à prêcher la parole du Christ. Et voici enfin un nouveau prétexte que les soviets viennent de trouver pour les répressions dirigées contre le clergé. Ils le rendent responsable des pitoyables résultats que donne la récolte des céréales. Ils l'accusent d'exciter les paysans à ne pas livrer leurs produits au marché et à ne pas vouloir les vendre à des prix très bas fixés par les autorités. Des procès ont déjà eu lieu et de sévères condamnations ont été prononcées contre des prêtres. Les journaux annoncent d'autre part que de nouvelles mesures sont en préparation pour confisquer ce qui reste encore aux églises d'objets du culte et les croix en or ou en argent qui peuvent appartenir personnellement aux membres du clergé. Dans ces conditions, on pourrait croire que la lutte finirait nécessairement en faute de combattants et que la victoire resterait aux soviets atteignant ainsi leur but, l'anéantissement total des desservants de l'Église. La vérité est tout autre. Les informations des journaux soviétiques et les nouvelles qui nous parviennent prouvent que le gouvernement soviétique n'est pas arrivé à priver les fidèles de l'aide et de la direction de leurs pasteurs, dont ils ont particulièrement besoin au milieu de la tempête provoquée par l'offensive des bolcheviks contre l'Église et contre la foi. Tués ou envoyés dans les geôles et au bagne, les anciens desservants sont partis, mais d'autres, d'une formation toute nouvelle, sont venus à leur place. Ils sortent des couches les plus profondes de la population. Ils sont du peuple, vivent avec lui, de la même vie que lui, en s'adaptant à ses besoins et à sa psychologie. Ils savent combattre la propagande sacrilège, d'ailleurs très rudimentaire et peu habile. Ils arrivent à raffermir, à élever la foi des fidèles. La presse soviétique reflète l'inquiétude qui se fait jour dans les milieux dirigeants. Elle dit « En face de nos propagandistes, qui sont passifs et maladroits, se dressent sans peur nos ennemis les plus implacables, les nouveaux prêtres, venus pour remplacer les anciens, venus on ne sait pas d'où, de même qu'on ignore qu'ils leur enseignent le dogme et qu'ils les préparent à communier avec le peuple pour affermir la foi, que le pouvoir soviétique s'efforce d'extirper de son âme ».